Chers amis, bienvenue à l'écoute de votre radio où nous retrouvons Saint François. Un an après, il y a là plus de 40 cellules. Le soleil cuit, l'été bat son plein, les montagnes se dressent toutes bleues dans la lumière vive. La chaleur tremble au-dessus des chemins et des maisons. Ici, sous les vieux chênes, sous l'épais feuillage, il fait frais et agréable. L'endroit est paisible comme un évangile. François prie dans la chapelle, frère Jacques se tient derrière lui. Quand François s'incline, Jacques s'incline aussi. Quand François soupire, Jacques soupire de concert. Quand François tousse, Jacques tousse à son tour. C'est sa manière à lui d'imiter son père. Un jour, François était entré dans une église, quelque part dans la montagne. Il y faisait si sale qu'il était sorti aussitôt, avait confectionné un balai de quelques branches et s'était mis à balayer. Tandis qu'il travaillait ainsi, un paysan tout tortu était entré pour réciter un chapelet. C'était Jacques. Ayant reconnu François, qu'il avait entendu prêcher un jour, il était sorti, envahi de vénération et de zèle, s'était confectionné un balai pour aider François. Ayant demandé et obtenu de demeurer avec lui, il avait rentré dardard son chariot à bœufs, mis ses habits de dimanche, dit adieu à ses frères et sœurs et accompagnait François. Depuis ce jour, il l'imitait en tout, comme une ombre, sauf dans la conversation. Au début, on en rit beaucoup. Mais Jacques, cette simple colombe, disait « François est un saint, donc si je l'imite en tout, le diable n'aura pas de prise sur moi. » Si d'aventure François s'abstenait, pour quelque temps, vous ne pouviez arracher à Jacques ni parole, ni geste. Il priait dans un coin, timide comme une souris. Sabatino et Ruffin se promènent dans le bois en priant. Ruffin était de la noble famille des Sifi, une âme profonde et dévote, mais à qui l'idée de devoir prêcher donnait la chair de poule. Morico et Sylvestre sont en train, avec d'autres, de bâtir 4 nouvelles cabanes. Là-bas, frère Masséo, entré au printemps de l'année dernière, est assis dans un groupe de jeunes et parle du Saint-Esprit. Il a la dignité d'un roi. Il raconte avec tant de feu et d'intelligence que d'aucuns l'écoutent à genoux comme en extase. Le Long et Barbaro font des fagots et Bernard Vigili taille des gobelets dans du bois. Frère Léon, ce frère aux petits yeux bleus, à la barbe courte et dure que François appelle le petit agneau du bon Dieu, parce que cet homme est si humble et si parfait, frère Léon est dans sa cellule en train d'écrire. Il est le secrétaire et le confesseur de François. Les gens l'appellent l'ange. Parfois, il lève ses yeux de dessus son parchemin et on dirait alors que ses yeux bleus contemplent une beauté inconnue. Et frère Chapeau raccommode des bures au moyen d'une aiguille à lacets. Avant chaque coup, il affiche sous son chapeau, dans ses longs cheveux, pour qu'elle traverse mieux la dure étoffe. François a toute la peine du monde pour lui faire raser à temps sa tonsure. Il en est un qui prie derrière un bosquet, d'autres dans leur cabane. Et partout, du silence, du soleil, de l'amitié. Les oiseaux chantent et les lapins sautillent et jouent librement autour des huttes, et devant les pieds nus des frères. Mais il y a aussi un malade, dangereusement malade. C'est Jean, un jeune. Il est couché, pâle et haletant sur sa paille. On entend son souffle jusqu'à l'extérieur. À ses côtés veille Genièvre, ce grand gaillard à la barbe hirsute, aux yeux enfoncés dans les orbites, aux mains larges comme des plis. Il prie les yeux fermés. S'il les ouvre, c'est pour regarder son malade avec compassion. « Voulez-vous boire encore un coup ?»« Non, allaite Jean, mais j'ai bien envie de manger une pâte de cochon rôti. Ça me guérirait. » »«
Une pâte de cochon rôti ?»«
Oui !»
Genièvre fronce les sourcils et son front se creuse de rides. Il réfléchit. Tout à coup, il dit
« Attendez un peu, je m'en vais vous en chercher une, comme s'il n'avait qu'à prendre. » Il sort et va droit chez Bernard Vigili. « Donnez-moi un couteau bien tranchant, » demande-t-il. Il le reçoit et le voilà parti. Oui, le couteau-là est bien affilé, il y a passé le pouce. Il aperçoit François qui prie dans la chapelle et Jacques qui l'imite. Il voudrait bien demander la permission, mais ne serait-ce pas péché de l'arracher à sa prière pour une vulgaire pâte de cochon? Et il continue sa route à grandes enjambées, comme un semeur, le brillant couteau en avant. Il sort du bois. Le soleil lui tape sur le crâne nu. Il va, enjambant des pierres, écartant des buissons. Il sait bien où il va. Et le voilà qui rit. Là-bas, il voit les porcs et il entend le porcher dans le tronc d'arbre creux où il s'assoit d'habitude, jouer de la cornemuse. Genièvre va au cochon le plus proche, qui dort béatement. Le porcher commence un nouvel air et soudain, Genièvre s'abat comme un pilier sur le cochon, saisit avec adresse une patte de derrière, le couteau taille, le cochon crie, le sang gicle, mais Genièvre a la patte, et de se sauver en riant. Mais le porcher accourut en jurant, et toute la paix de la portioncule fut aussitôt dévastée, bouleversée. Les frères durent retenir à plusieurs le porcher. Il aurait démoli Genièvre. Il hurlait, jurait, « Voleur, galérien !» François, entendant les cris, sursauta, accourut, Jacques aussi. « Laissez cet homme tranquille, » dit François, et lui demanda des explications. De colère, celui-ci eut du mal à en donner. Genièvre parla alors à sa place avec de grands gestes de ses mains sanglantes. « Ben voilà, Jean, la pauvre brebis si malade, désirait une patte de cochon grillé, ça le guérirait. Des pattes de cochon, ça ne se cueille pas aux arbres, mais aux cochons. Nous n'avons pas d'argent pour en acheter, alors j'en ai pris une au cochon même. Qu'est-ce qu'une patte de cochon comparée à la santé d'un frère? Si ce brave cochon savait à quoi doit servir sa patte, il donnerait encore volontiers les trois autres. Pourquoi ne m'as-tu pas d'abord consulté? Demanda François. Et Genièvre répondit, « Parce que vous étiez si bien absorbé dans votre prière. » La colère du porcher se dégonfla. « Écoutez, dit-il, maintenant que je vois le comment et le pourquoi, je ne dis plus rien. Il y a longtemps que j'aurais dû faire quelque chose pour vous, car il m'arrive parfois d'oublier notre Seigneur, vous comprenez? Et je veux réparer ça. Voilà, je vous donne le cochon entier. » Frère Genièvre dansait. Il accompagna lui-même le porcher pour tuer la bête qu'il rapporta sur son dos en chantant. « La moitié pour les malades !» cria François. Tandis que l'on découpait le porc, Genièvre grillait la pâte sur un petit feu de sarment et la porta ensuite sur une feuille de chou à Jean, qui la mangea de bel appétit. François souriait de bonheur et il dit « Que neige tout un bois de genévrier pareil !» Et pendant ce temps-là, il fixait Frère Chapeau dans le blanc des yeux. François était sorti avec frère Masséo pour prêcher et fonder dans les montagnes des ermitages où trois ou quatre frères habiteraient ensemble, petit nid de l'Évangile. Ils étaient en route depuis trois jours. Masséo prenait les devants et François suivait, enfermé dans sa prière.
ils arrivèrent à un carrefour où passaient continuellement des hommes et des chariots, car on était au temps de la vendange. Un chemin menait à Sienne, un autre à Arezzo, le troisième à Florence. Masséo demanda « Père, lequel suivrons-nous ?»«
Celui que notre Seigneur nous indiquera. »
« Comment le saurons-nous, Père ?»«
Voici, au nom de la sainte obéissance, je t'ordonne de te placer au milieu du carrefour et de tourner sur toi-même aussi vite que possible comme une toupie, de tourner toujours jusqu'à ce que je dise « halte ».
Frère Masséo regarda François avec étonnement, mais il n'hésita point, il tourna sur lui-même. Ce bel homme, au prestige royal, est là à s'agiter comme un fou, tantôt sur une jambe, tantôt sur l'autre, les bras étendus. Les passants rient, les femmes poussent des cris aigus, et François prie, les yeux fermés, pour connaître la volonté de Dieu. Soudain, il crie « Halte !» À l'instant, frère Masséo s'arrête. « Dans quelle direction as-tu la face tournée ?» demande François.
« Dans la direction de Sienne, » dit Masséo haletant, ivre de vertige.
« Nous irons donc à Sienne, c'est la volonté de Dieu, » dit François, en rouvrant les yeux. Et ils poursuivent leur voyage. Le grand et grave frère Masséo va devant, et derrière lui, comme un vulgaire petit valet, François, les bras sur la poitrine, la maigre tête penchée, tout noyé dans la prière. Ruffin sortit d'une des grottes du mont Subasio. Il y avait passé une semaine entière. Une lumière intérieure l'illuminait, le feu de l'esprit. Le voyant si plein de Dieu, François lui dit « Frère, je devrais prêcher demain à la messe de 10 heures en l'église Saint-Nicolas, mais puisque tu es si plein de dévotion, tu me remplaceras. »«
De grâce, Père, gémit-il, je vous en supplie, vous savez que je ne sais pas prêcher. »
La sueur lui coulait du visage. « Aie confiance en Dieu et tout ira bien, » dit François. Ruffin n'en put dormir de toute la nuit et il tremblait comme un roseau. Le lendemain, il vint, prêt à pleurer, demander en grâce au Père de le décharger de ce sermon. François n'était pas très content de ce manque de confiance et il dit « Je t'ordonne d'aller. En vertu de la sainte obéissance, je t'ordonne même d'y aller sans bure. » Vêtu seulement de ta culotte en punition de ta méfiance à l'égard de notre Seigneur. » Ruffin devint rouge et blême. Les confrères trouvaient à part soi la pénitence disproportionnée. Mais Ruffin ôta sa bure, ne gardant que sa culotte, et s'en fut. Honteux et brisé, mais il obéit. Le peuple d'Assise était comme possédé. Enfants et voyous l'accompagnaient en le raillant, les passants hurlaient et sifflaient. La messe était déjà commencée. Le curé fut si surpris qu'il manqua tomber à la renverse. « François l'a voulu ainsi, » dit Ruffin humblement. Et il monta en chair. Quand ils virent émerger ce buste maigre et poilu, les fidèles ne savaient quelle attitude prendre. Et puis ce sermon. Ruffin essayait d'exposer les idées sur l'hypocrisie, mais les mots lui restaient à moitié dans la gorge. Il bégayait, répétait 4 fois la même chose. Ensuite, il faisait de nouveau une pause trop longue, incapable de proférer un mot. Il ruisselait de sueur. Les gens étaient gênés pour lui et n'osaient lever les yeux. À peine Ruffin était-il parti que François comprit sa faute. « Hélas, pour un défaut naturel, j'ai exposé à la risée publique un si saint homme. » Et il se gronda. « Méprisable ver de terre, qui a tant de mal à te conduire toi-même, n'as-tu pas honte d'humilier autrui de cette sorte? Lève-toi et applique-toi la même punition. » Aussitôt, il se dépouilla vivement de sa bure et s'enfuit en courant. « Ah, ah, encore un fou !» hurla le peuple. « Toute la colonie est devenue folle. Qu'on les mette en cage !» Entré à l'église, suivi d'une bande de railleurs, il monta droit en chaire et commanda à Ruffin d'en descendre. L'étonnement redoubla. Mais François expliqua la raison de sa venue, s'humilia devant tout le monde et fit ensuite sur le dénuement et la pauvreté du Christ un sermon si beau, si profond, si plein d'âme, qu'on ne lui en avait jamais entendu faire de pareil, et après la messe, on se battit pour pouvoir au moins le toucher au passage. Vers ce temps-là, il fut un peu malade. Et Genièvre avait pris pour lui un merle qu'il avait frit exemplairement dans l'huile d'olive. Ce merle succulent, François le mangea avec une réelle satisfaction. Mais en grignotant le dernier os, il eut un sursaut de conscience. « Gourmand, se dit-il, jouisseur. Hélas, je prêche sans cesse au peuple la pénitence et la pauvreté. J'ai renvoyé un frère parce qu'il aimait plus la bonne chère que le travail. J'ai refusé d'en admettre un autre parce qu'il donnait sa fortune à sa famille plutôt qu'aux pauvres. Et moi-même, en cachette, je mange de la volaille. Hypocrite, frère Anne, tu paieras ça et tu le paieras cher. » Il appela Jacques et lui commanda de l'accompagner assise et de se munir d'une corde. Et quand ils arrivèrent aux portes de la ville, François s'attacha à la corde au cou et dit à Jacques ce qu'il avait à faire et à dire. « Bien, dit Jacques. » Il obéissait toujours aveuglément et volontiers. François était un saint. Ils allèrent par les rues de la ville et Jacques tenait la corde qui servait de licole à François qui suivait. Et Jacques criait aussi fort qu'il pouvait. « Voyez, bonnes gens, voyez cet homme qui vous conseille le jeûne et la pénitence et qui, en cachette, mange de la fine volaille parce qu'il a un peu mal à l'estomac, le glouton, la fine bouche, l'hypocrite. » Et ainsi, ils parcoururent la ville, suivis d'une ribambelle de badauds. L'appel de François planait sur la contrée comme une aurore. Naguère, il devait poursuivre les paysans jusque dans les champs. Maintenant, ils abandonnaient de même leurs charrues pour venir l'écouter. Partout, il prêchait dans des églises combles. Quelque chose de merveilleux se passait dans les cœurs. Ses paroles et sa figure ranimaient la foi et l'amour. Un désir de simplicité et de bonté naissait en ceux qui l'écoutaient. C'était un enchantement. Une vague de repentir, de pardon, de réconciliation. Le nombre de ceux qui désiraient devenir frères s'accrut tellement que François avait besoin de tout son temps pour fonder des petits nids de l'Évangile, ça et là dans les forêts et sur les montagnes. Des gens qui naguère l'avaient raillé et injurié étaient devenus les meilleurs prosélytes. Tel le père de Mariette qui, à sa première tournée de mendiant, lui avait donné ses choux rouges devenus noirs. Il aurait maintenant pour François traversé l'eau et le feu. Il était devenu dévot et calme, et quand il sculptait des crucifix, il s'efforçait de leur faire exprimer cette profonde douleur et ce sublime amour dont François ne cessait de parler. Grincheux, indifférent, avare, était devenu, sous l'emprise de son exemple, affable et vertueux. Parmi ceux qui buvaient son verbe avec délice, il y avait une claire et blonde demoiselle, Claire Sifi, qui un jour lui avait donné des raisins et des gâteaux. Il voyait comme elle l'écoutait, sans un battement de paupières, avec de temps en temps l'attendrissement d'une douce piété sur son noble et pâle visage. Et touché lui-même de la beauté céleste qui la transfigurait, il dirigea sur elle ses paroles comme la lumière d'une lanterne. Un ange, songea-t-il, un ange parmi les hommes. Et il dit à Masséo, à Assise vit un ange. Prions afin que cette belle âme ne soit pas engloutie par le monde. François était heureux de voir partout ce printemps divin germer dans les hommes. Cela lui donnait de la force et de l'ardeur. Il était heureux de pouvoir être le semeur de Dieu et il n'avait qu'une crainte, de ne pas aimer Dieu. Cette crainte le tenait souvent éveillé, le poussait à des prières et des pénitences sans fin. Cette crainte était sa grande peine. Il revenait avec frère Léon de Pérouse, où ils avaient été prêchés. Sur la neige épaisse, il neigeait encore. Frère Léon devant, il marchait, les pieds enveloppés de sacs, le capuchon tiré bas sur la figure et les mains dans les manches. Le vent soufflait à travers leurs bures. Mais, penché en avant, il s'efforçait d'avancer, priant et grelottant. Soudain, François s'écria : Petit agneau du bon Dieu, quand bien même tous les frères mineurs donneraient les plus beaux exemples de sainteté et de vertu, et guériraient les paralytiques, sauraient rendre la vue aux aveugles, chasser les démons, voire ressusciter les morts, retiens et note que cela ne serait point la véritable joie. » Frère Léon, sans répondre, poursuivit sa route. Après un temps, François cria de nouveau. « Même quand, possédant toutes les sciences, nous saurions prédire l'avenir, déchiffrer les secrets des consciences et des cœurs, écrit que cela non plus n'est pas la véritable joie. » Frère Léon se taisait par respect pour ne déranger point le père dans sa méditation. Après un intervalle, François reprit. Quand bien même un frère mineur parlerait la langue des anges, expliquerait le cours des astres, saurait la vertu des plantes, le pouvoir des oiseaux, des hommes, des poissons et de tout ce qui est sur terre, écrit que cela encore ne serait point la joie parfaite. Frère Léon, buté contre le vent qui lui jetait par poignées la neige dans la figure, écoutait avec une attention plus tendue, sachant qu'il allait ouïr de plus belles choses encore. François continua. Agneau du bon Dieu qui te nomme Léon, même si les serments des frères mineurs avaient le pouvoir de convertir à la foi du Christ tous les païens, écris qu'en cela ne consiste pas la véritable joie. Méditant de la sorte, ils avaient marché une lieue dans la neige, mais à la fin, frère Léon ne pouvait plus dominer sa pieuse curiosité et il demanda quelle était la joie parfaite. Et alors François jubila, comme un orgue éclatant de tous ses tuyaux. Lorsque tout à l'heure nous arriverons à la portioncule imbibée de neige, transie de froid, souillée de boue, rongée par la faim, et que nous frapperons à la porte, et que le portier ayant demandé « Qui êtes-vous ? » nous lui répondrons « Deux de vos frères ». S'il dit alors « Vous mentez, vous êtes deux vagabonds qui trompez le monde et volez les pauvres, sortez d'ici !» Et s'il nous laisse dehors, dans la neige et le froid, jusque tard dans la nuit, et si nous pensons en toute douceur et humilité qu'il nous connaît bien, et si nous frappons à nouveau, et si, courroucés, il nous jette à terre et nous roue de coups de bâton, et si nous supportons tout cela volontiers, sans murmure ni soupir, pour l'amour de notre Seigneur Jésus, ô frère agneau, écris que c'est là la véritable joie, car au-dessus de tous les dons de l'Esprit-Saint que le Christ octroie à ses amis, il y a la grâce de se vaincre et de souffrir volontiers pour l'amour du Christ, la douleur, l'injustice et les mauvais traitements. Pourquoi nous glorifier de ce qui ne nous appartient pas ? Mais nous pouvons nous glorifier dans les tribulations de la croix, parce que, les acceptant de plein gré, elles deviennent nôtres. Je ne veux me glorifier de rien, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ému, transporté, enflammé par la prodigieuse beauté de l'âme de François, frère Léon se jeta à son cou en sanglotant de bonheur. Le croissant brillait juste au-dessus de la hutte de François. Frère Jacques, qui allait l'éveiller, vit cela. C'était pour lui un signe de bénédiction, quelque chose comme l'étoile de Bethléem. Jacques vit François agenouillé, et naturellement, il se mit aussi à genoux. et il dit « Père, je viens vous avertir qu'il est 6 heures, ainsi que vous me l'avez demandé. » François ne répondit point. Il leva les bras, puis les croisa sur sa poitrine, comme s'il prenait quelque chose dans l'air pour le cacher dans son cœur. Frère Jacques l'imita. François se leva, le salua, et Jacques lui répondit par un salut tout pareil. François sortit en hâte par la petite porte et s'en alla sous les arbres jusqu'à un endroit où une source jaillissait de terre. Là, il s'arrêta. Le silence était tel dans la pénombre que seul le babil de cette eau y parlait. Le printemps hantait les arbres. François regarda autour de lui, il ne vit personne. Le jeûne et la pénitence l'avaient rendu très maigre. Ses traits révélaient la part qu'il prenait durant ce carême aux souffrances de notre Seigneur. Parfois une lumière de joie allumait ses yeux. Et il se pencha, et dans ses deux mains rapprochées, il puisa une gorgée d'eau, et il dit à l'eau « Ô claire sœur, être innocent et chaste, comme Dieu t'a créée belle et bonne pour le bien des hommes, pour leur baptême et leur soif. Seigneur, gardez ainsi dans toute sa clarté demoiselle claire pour le bien des hommes. » Il la revit en esprit comme il avait vu souvent à l'église ou lorsqu'il mendiait, qu'il chantait ou prêchait sur la place publique, mais surtout pendant les sermons du carême qu'il faisait à l'église Saint-Ruffin. C'est comme s'il avait prêché pour elle seule. Son âme lui avait crié d'aller à Dieu et il voyait à ses yeux pleins de feu qu'elle le suivait et se détachait du monde. Un ange. Que de fois il avait désiré lui parler. Par pudeur, il n'avait pas obéi à son désir. Mais ce midi, au retour d'une visite aux malades, la tante de demoiselle Claire l'avait abordé pour lui demander si sa nièce ne pourrait pas avoir un entretien avec lui à l'insu de sa famille. Il avait choisi cette source pour le lieu du rendez-vous. L'eau avait coulé de ses mains. « Sœur eau, frère arbre, réjouissez-vous avec moi, un ange va venir !» Il laissa les gouttes découler de ses doigts. Il entendit un craquement dans le taillis et en hâte, il s'essuya les mains à sa bure. Elle était là, accompagnée de sa tante. Celle-ci s'arrêta et Claire s'avança seule. Elle portait un long manteau sur une robe de soie vert pâle. François fit un pas vers elle et la salua avec respect. « La paix du Seigneur soit avec vous. » Elle était là comme un rêve de jeunesse et de beauté, une mince petite figure de 18 ans, et avec ce visage pâle, ses longs yeux bleus, ce nez droit, cette petite bouche rouge et cette abondante chevelure blonde, elle était pareille à un matin de printemps. Ils se regardèrent, émus. Le monde autour d'eux s'évanouissait comme une brume. Ils voyaient Dieu l'un dans l'autre, Dieu qui les avait réunis comme quelqu'un qui joua ses deux mains pour prier. « Ma sœur, dit-il, et lui fit signe de s'approcher davantage. Elle frissonna de s'entendre appeler « sœur » par celui qu'elle admirait tant. Elle prit la main tendue qui était moite et murmura « mon frère ». Près de la source, il se tenait la main dans la main. Une lueur de soleil couchant mettait de l'or aux cimes des arbres et tout bruit était arrêté. Ils se taisaient. Ils avaient tant de choses à se dire, mais à présent qu'ils étaient réunis, ils étaient, pour y songer, trop remplis de délices. Elle était venue pour lui confier sa peine et ses craintes parce que son père voulait la donner en mariage à un chevalier et qu'elle préférait vivre pour Dieu seul. Près de François, elle ne sentait plus d'angoisse. Elle se tenait au-dessus de la terre et des hommes, dans la cristalline musique des cieux. Il oubliait de lui demander le motif de sa visite. Sa présence valait mieux que toute réponse. Ils s'illuminaient mutuellement de leur force, de leur combat, de leur intime beauté. « Je voudrais, soupira-t-elle, partager votre vie en Jésus et en la pauvreté. Dieu soit loué, jubila-t-il avec une ferveur contenue. Loué pour la première sœur de la pauvreté. Bénissez-moi, mon frère. » Le front incliné, elle s'agenouilla. Ses cheveux retombaient dénoués le long de ses joues et les mains croisées sur la poitrine, elle attendit cette bénédiction. Alors, d'une main qui tremblait, il fit sur elle un grand signe de croix, lentement. Puis, la relevant, « Revenez demain, ma sœur. Je reviendrai, mon frère. » Elle s'éloigna sans bruit sur la mousse épaisse. Il la regarda partir, et quand le bois fut redevenu solitaire, il se couvrit les yeux de ses deux mains. Ces entrevues secrètes, seuls les frères en avaient connaissance et la tante de Claire qui l'accompagnait toujours. Tout ce qu'ils se disaient n'était que paroles différentes d'une même mélodie. Cette mélodie, Jésus, le ciel, la pauvreté. Ma sœur, le chemin de la pauvreté est semé de fleurettes, mais aussi d'épines. Je serai forte comme vous, mon frère. Je sais que je serai forte par vous. Je suis la petite fleur que vous avez cueillie. Vous pouvez la planter parmi les ronces et dans la nuit. Elle fleurira. Oh, ma sœur, quelle merveille! Vous êtes forte comme une armée rangée en bataille. Par lui et par vous, mon frère, je veux faire de mon corps un temple de Dieu. Mon âme fond du désir de consommer ses épousailles avec le roi céleste. Ensuite, François raconta sa vie. Et elle, comment, dès son enfance, elle avait attendu un miracle qui transformerait sa banale vie en flamme et clarté, et que ce miracle était venu maintenant par lui, par sa pauvreté et ses prédications. Elle serait accueillie dans la confrérie la nuit du dimanche des Rameaux. Le père de Claire planait comme une ombre sur leur bonheur mystique. Cet homme serait capable de massacrer tous les frères mineurs s'il lui arrachait sa fille. François en eut grand souci. Mais pour mille de ces pères-là, il ne lâcherait l'âme de Claire. François, dont un sou fut renversé le corps, n'avait d'autre arme que la prière. Un soir, il rassembla les frères et leur exposa le cas. « Frères, aidez-moi de vos prières. La semaine prochaine, Jésus commence sa passion. Adoucissons un peu sa peine en posant comme un baume sur son cœur notre première sœur et remercions Dieu d'avance. » Il se mit à genoux et tous avec lui. La lune creva les nuages et versa sa lumière à travers les arbres sur ces hommes prosternés le front contre terre. Mais un des frères se leva, un homme coiffé d'un chapeau. Il rentra dans sa cabane. « Non, grommela-t-il, assez haut pour être entendu, pas de femme ici !» Et il ferma la porte sur lui. Au revoir, chers amis. À bientôt pour un nouveau passage de la vie de Saint François.